Salut, ici Ziad Malouf. Un petit mot pour vous dire que ce que vous allez entendre maintenant est une version longue de notre émission du samedi 15 juillet, une version réservée au podcast et au web. Merci de votre fidélité. Atelier des médias, nous continuons aujourd'hui notre enquête portant sur les violences auxquelles s'exposent en France les journalistes qui souhaitent couvrir des manifestations publiques. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes arrêtés après avoir rencontré Paul Copin de Reporters sans frontières qui a observé une banalisation de la violence contre les journalistes en France. En se fondant sur les écrits d'organisations non gouvernementales et de confrères, ainsi que sur des témoignages, nous pouvons dire que le problème prend toute son ampleur durant les mouvements contre la loi travail en 2016. Les questions que nous nous posons maintenant sont celles de l'envergure et de la persistance de ces violences. C'est pour cela que nous avons fait appel à Mathias Virilli, collaborateur régulier de l'atelier. Son rôle est de recenser toutes les violences contre les journalistes durant les 3 ou 4 dernières années. Les résultats de ce recensement sont édifiants. Ils confirment qu'un problème de violence contre la presse existe bel et bien en France. Je ne vous en dis pas plus. Pour l'instant, Mathias vient de nous présenter son recensement à la fin de cette émission. Revenons maintenant à notre récit. Pendant que j'épluchais les rapports et articles liés aux violences policières contre les journalistes, Constance et Marie-Stéphanie de l'Atelier des médias se sont rendus en manifestation avec Sarah Lefebvre et Thomas Status de Street Press. Nous sommes le 16 avril 2017, à une semaine du premier tour de la présidentielle.
C'est un dimanche après-midi. Marie-Stéphanie et moi allons à Aubervilliers, en proche banlieue parisienne, où a lieu un rassemblement antifasciste. Il est programmé la veille d'un meeting de Marine Le Pen, qui se tient donc le 17 avril, au Zénith de Paris, c'est-à-dire tout près d'Aubervilliers. Notre objectif est de savoir si les différentes informations que nous avons recueillies se confirment sur le terrain. Nous avons choisi un défilé jugé à risque par les observateurs. Nous voulons mieux connaître le profil des personnes qui couvrent les manifestations.
Moi c'est Clément, j'ai 19 ans, je suis encore étudiant et puis sur mon talib je suis un peu géré indépendant et je couvre tous les mouvements sociaux, mais pas que, je fais aussi de la politique, enfin plein de choses, mais surtout en ce moment des manifestations avec la présidentielle et j'ai fait tout le travail et voilà.
Lui c'est Clément Lanneau, il parle vite donc vous ne l'avez peut-être pas compris, il est JRI, c'est-à-dire journaliste reporter d'images. Il est venu en compagnie de plusieurs collègues dont Stéphanie, tous deux et plusieurs autres professionnels sont vêtus de noir.
On est souvent habillé dans les couleurs foncées parce que c'est une couleur neutre et ça permet de pas être reconnaissable ni par les policiers qui veulent parfois cibler les journalistes ou repérer les gens parce qu'on filme tel ou tel truc. Et aussi par les manifestants qui aussi sont pas forcément pour la venue des journalistes, même si on respecte les règles et que moi je sais que je filme pas les têtes, quand je les filme je les floute. Mais ça permet d'avoir une couleur neutre et pas être repérable de très très loin dans une foule pour les gens qui voudraient nous menacer ou qui voudraient pas de nous.
Toi, quand même, dans ta préparation de manifestation, je vois que vous avez, Stéphanie, un casque en main, un casque de vélo en main avec presse écrit dessus.
Ouais, j'en ai aussi.
Tu en as aussi.
Ouais, dans l'équipement de la manifestation, évidemment, on a des casques avec marqué. Moi, je le montrerai tout à l'heure, j'ai un casque avec écrit en gros, en blanc, presse. Je veux être identifiable sur mon casque qui est marqué presse en gros. Comme ça, de loin, on sait que je suis journaliste. J'ai aussi un brassard presse. Quand j'ai pas mon casque, je le mets quand c'est un peu tendu. Comme ça, les gens voient bien que je suis journaliste. Moi, je suis là pour filmer, pour montrer ce qui se passe. Et je veux que les gens ne pensent pas que je le cache, quoi.
Bien entendu, les casques servent également à protéger des projectiles qui peuvent venir de toutes parts. Je n'en avais pas ce jour-là. Je n'étais pas la seule, mais une grande majorité de journalistes en portaient. Tout le monde avait aussi un foulard ou équivalent pour protéger des gaz lacrymogènes. Revenons à Clément. Il a un profil journalistique particulier puisqu'il est également étudiant et tout jeune. Il a 19 ans, il l'a dit, et suit des cours d'informatique. C'est important de le souligner puisque ce sont ces profils atypiques électrons libres qui sont, selon notre enquête, les plus susceptibles d'être visés par les vexations et les violences.
C'est vraiment les attentats du 13 novembre qui m'ont fait un peu bouger et m'ont fait sortir de chez moi sur ce genre de choses. Le 14-15 novembre, je regardais la télé et j'étais là chez moi à rien faire. Et du coup, je suis sorti avec mon matériel vidéo pour montrer en fin de compte les gens qui se rassemblaient à la place de la République, qui étaient ensemble. Et du coup, j'ai continué comme ça à couvrir des événements d'actualité en France, à Paris. Naturellement, après que le travail, j'en ai fait beaucoup. Et c'est comme ça que je me suis un peu J'aime pas spécialiser parce que je suis pas que ça, mais que j'ai fait beaucoup de mouvements sociaux, de protestations comme ça. Et le fait que des gens se mobilisent comme ça, pour moi, ça veut dire quelque chose. J'ai pas le recul pour dire si dans les 50 dernières années, il y a eu d'autres trucs comparables ou quoi. Pour moi, le fait que des jeunes maintenant qui ont, en fait, mon âge, se mobilisent, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une colère, ils ont des revendications. Ils sont pas là que pour casser des banques ou casser des voitures, voilà. Moi, ma façon de me mobiliser, c'est d'aller filmer et de montrer ce qui se passe. Est-ce que je suis d'accord avec eux? Est-ce que je comprends ce qu'ils font? Peut-être, peut-être pas. Ça, je le garde pour moi. Mon combat, moi, c'est de montrer ce qui se passe et de témoigner à ma façon de ce que je vois sur le terrain.
Sans être forcément engagé.
Mais comme tout le monde, j'ai mon avis politique, mais en tant que journaliste, je n'exprimerai pas, je le garde pour moi. Même dans tout ce que je couvre, enfin, je ne couvre pas que des trucs de gauche, que des trucs de droite, j'essaie de couvrir le maximum de choses pour voir le maximum de choses, comprendre des trucs que je ne comprenais pas, m'intéresser à des choses que j'avais jamais vues avant. Et donc oui, j'ai mon avis, j'ai mes opinions, mais je ne les exprime pas. Sur Twitter, je n'en parle pas. Dans la vie en général, j'en parle. Enfin, je les garde pour moi. Quand je suis journaliste, je ne les exprime pas parce que ça ne regarde que moi. Et quand je suis sur le terrain, là, comme aujourd'hui, ou quand je vais faire un meeting de tel ou tel parti, bah, j'estime que je dois y aller en étant neutre et en essayant de comprendre pourquoi des gens sont là, pourquoi des gens se mobilisent, pourquoi des gens font telle ou telle action. Et mon boulot, c'est juste comprendre. C'est pas de juger, de dire s'ils ont raison, s'ils ont tort, c'est juste comprendre.
Clément vend certaines de ses images, mais dans la mesure où son activité journalistique est peu rémunératrice, il n'a pas de carte de presse ou de carte professionnelle d'agence.
Non, je n'ai pas de carte de presse, mais du coup j'ai une caméra et que j'ai un matériel semi-pro, voire professionnel, j'ai pas trop de soucis avec la police qui voit bien que je suis là pour filmer. Et puis si besoin, bah, je peux leur montrer mes publications. J'ai travaillé pour des médias étudiants, enfin voilà, donc je peux montrer facilement que je suis journaliste.
Est-ce que ça sert à ça aussi, quand vous passez les barrages filtrants, d'être en groupe et d'éventuellement être en compagnie de personnes comme Stéphanie qui ont leur carte de presse?
Ah ouais, Stéphanie a une carte d'agence, et du coup, être avec d'autres journalistes, ça permet de montrer que quand ils voient un groupe avec tout le monde a des appareils photos, des caméras, et bah, les policiers, ils voient bien qu'on est journaliste et qu'on est ensemble. Et s'il y a un doute, tout le monde confirme que l'un est un journaliste et travaille bien avec eux ou pas, et on arrive à passer les barrages et les fouilles sans souci.
Nous commençons à défiler. L'atmosphère est tendue mais reste pacifique. Clément en profite pour bavarder avec des connaissances, dont un homme d'environ 40 ans qu'il vient de croiser. Il s'agit d'Olivier Lavielle. Il est journaliste indépendant et travaille principalement pour des médias américains. J'engage la conversation.
Tu connais bien Clément ?
Oui, on s'est rencontrés le 1er mai à l'occasion des violences policières à l'encontre des journalistes, je crois bien d'ailleurs.
Qu'est-ce qui s'était passé ?
Oh, j'ai des belles photos, hein. Bah, des tirs directs de grenades de désencerclement sur les journalistes avant de charger sur... Tu te souviens,
ouais.
Et j'ai des belles photos de ça, hein, où ça n'a aucune... Enfin, on ne peut pas nier qu'effectivement ce sont des tirs directs sur les journalistes. Des charges contre les services de premier secours aussi, pas mal. On avait fait pas mal de photos qui ont d'ailleurs absolument pas été achetées par le média. Et, oui, parce que ça montrait pas le bon côté de la police, à vrai dire. Et voilà. Mais on avait aussi des belles photos de manifestants qui tapaient lourdement sur la police aussi, hein, je veux dire... Il n'y en avait pas un pour attraper l'autre à ce moment-là. Voilà. Et donc on s'était rencontrés là avec Clément.
La police avait bloqué toute la manif et pendant je crois 4 heures ils avaient fait une nasse dans la rue. Pendant 4 heures on ne pouvait pas bouger. Et du coup ça avait encore plus énervé les manifestants parce que...
Alors que tout se passait correctement à ce moment-là en fait. Et donc du coup immédiatement quand ils se sont sentis enfermés, c'est parti assez rapidement au final. Hein. Les bancs, tout, les morceaux de barrières... C'était vraiment une guerre. Et donc il y avait une bonne cinquantaine de journalistes bloqués avec eux dans la nasse. Et on s'en est pris plein à la face. Hein. Il y a eu du coup de matraque. J'ai une photo de deux CRS en train de matraquer des journalistes violemment. L'année dernière, il y a quand même pas mal de gens qui ont. Enfin, de journalistes, de collègues qui ont fini à l'hôpital. Hein, pour Bon. Il y en a quelques-uns, on sait très bien que ça venait de la police. Les autres, on aura toujours un doute parce que ça vole tellement dans tous les sens. Bien malin, celui qui pourra dire. Enfin, quand on se prend un coup de tonfa, on sait de qui ça vient. Mais quand on prend un projectile, c'est toujours un peu dur de savoir d'où ça vient. Donc, il faut être vigilant. C'est pour ça qu'on a des casques. T'as pas de casque, toi ? C'est pas bien. T'as le tien, toi ?
T'as mon sac.
Et du coup, ça fait longtemps que tu couvres les manifestations, les mouvements sociaux
Les mouvements sociaux de grande ampleur comme ça fait pas longtemps qu'il y en a au final, hein, parce qu'il y a toujours des manifestations de gens, de syndicalistes, où ça se passe toujours très bien, qui ont des revendications. Et maintenant, là, on assiste à des manifestations, c'est plutôt des phénomènes de société au final maintenant, où les gens ont plus vraiment de revendications bien particulières, ils sont juste dressés vent debout contre un modèle de société qui leur convient plus.
Et en termes de violence à l'encontre des journalistes?
Ça a augmenté jusqu'aux manifestations de mai de l'année dernière. Et étant donné tous les scandales qu'il y a eu, toutes les plaintes qu'il y a eu, Par ailleurs, il y a des organisations d'observation du journalisme mondial qui ont quand même noté que le journalisme en France, la liberté de la presse, c'était plus vraiment ça. Donc il y a eu un petit revirement de situation, je trouve. Tu vois, par exemple, là je suis passé exprès parce que maintenant quand tu veux sentir la... Tu veux prendre la température d'une manifestation, tu passes à côté des camions de CRS et tu vois de suite. Il y a eu un moment quand même, les mecs ils t'arrêtaient et moi ils m'ont carrément menacé de me foutre en taule, enfin de me mettre en garde à vue, etc.
Avant la manifestation, tu veux dire?
Pas celle-ci, hein, vraiment l'année dernière. Et là, en fait, j'ai fait exprès de passer le long des camions de CRS assez proche d'eux. Et en fait, on s'est dit bonjour et puis ça s'est bien passé. Donc on voit bien qu'il y a eu quand même un revirement de situation où ils ont probablement reçu des ordres pour leur demander de se calmer avec les journalistes, si vous voulez.
Ça commence à chauffer. L'air se charge de gaz lacrymogène, des projectiles volent au-dessus de nos têtes, les policiers sont plus tendus. La plupart des journalistes autour de moi portent un foulard ou un masque à gaz, je suis toujours avec Clément Lalo.
Il y a un truc intéressant à savoir sur ces manifs un peu, qui peuvent être un peu chaudes, c'est que les grandes chaînes de télé envoient plusieurs équipes comme d'habitude, mais envoient maintenant des agents de sécurité, déjà sur les manifs au travail, là des agents de sécurité privés, un peu... qui sont là pour protéger les équipes. Ça vient de péter là contre les CRS, un pétard, je crois. Et du coup, les chaînes de télé envoient avec eux des agents de sécurité, un, deux, pour les protéger, parce que du coup, les médias peuvent être la cible.
Et tu en as vu là, par exemple? Qu'est-ce que tu as vu?
Là-bas, en fait, c'est des gens qui sont habillés normalement. Enfin, ils ont pas d'armes, ou, voilà, ils ont rien de visible. Mais je pense qu'ils sont formés à la protection de personnes.
Nous avons vérifié cette information auprès de TF1. Le directeur de la rédaction, Antoine Guélot, a confirmé que pour certaines manifestations, sa chaîne envoie des vigiles discrets avec les journalistes. Bien entendu, il s'agit de les protéger de débordements et de manifestants violents ou intrusifs s'il s'agit d'un direct.
En fait, quand on parle avec les professionnels sur le terrain, on découvre que les grandes rédactions forment leurs équipes aux situations d'émeutes et de manifestations. On ne couvre plus aujourd'hui de rassemblements d'extrême gauche, d'extrême droite ou des révoltes sans préparation et sans matériel de protection quand on travaille pour RFI, Radio France, Le Monde ou l'AFP.
Donc, je suis Tiffaine Lelibou, je suis journaliste à l'agence France Presse dans le 93 au bureau de Bobigny. Et donc sur la couverture des manifs, nous déjà à l'AFP on est obligé de suivre une formation qui s'appelle anti-émeute, donc une formation sécurité aux manifestations. Depuis quelques années maintenant, ça a commencé avec les émeutes de 2005 en banlieue, donc ils ont renforcé cette formation-là. Et donc on apprend à où se placer quand il y a des manifs, qu'est-ce qu'on doit faire, repérer une sortie par exemple si on est sur une place où la manif est bloquée, voilà, pour pouvoir sortir rapidement. On a aussi un équipement qui est composé d'un gilet pare-balles quand même, d'un casque et des lunettes contre les gaz lacrymo, aussi des espèces de sérum là pour le. Voilà. Donc ça on l'a nous à notre bureau de Bobigny où on est quatre, on a deux kits comme ça complets qu'on doit tout le temps mettre dans notre voiture quand on part en manif, notamment en banlieue, parce que voilà, des fois c'est un peu chaud. C'est surtout quand des manifs où on sait que ça va vraiment un peu chauffer. Ou, par exemple, demain, eux, ils prévoient une journée d'action. Là, peut-être que mon collègue qui couvrira la manif prendra un casque. Mais le gilet pare-balles, on n'y est pas encore quand on ne l'a jamais utilisé, bien sûr.
Est-ce que tu as constaté une évolution dans le rapport qu'il y a entre les policiers et les journalistes?
Je pense que je ne suis pas la mieux placée pour en parler parce que je n'ai pas couvert beaucoup de manifs loi travail, tu vois. Et nous, on est en banlieue et pour le coup, pour nous, en tant qu'AFP, enfin je sais pas où, moi et mes collègues du bureau, en tout cas, ça se passe bien avec les policiers. Après, c'est vrai qu'en banlieue, souvent, il y a des habitants qui sont contre les journalistes. Pendant l'affaire Théo, justement, à Aulnay-sous-Bois, il y a des journalistes de BFM qui se sont fait voler leur caméra. Il y en a de TF1 qui étaient là avec des gardes du corps. Donc ça démontre aussi qu'il y a un certain climat de tension. Et donc voilà, c'est pas tout le temps super serein. Après, l'avantage, c'est que moi, je suis une journaliste texte, donc j'ai pas de matériel visible. Je pense que ça aide aussi à faire baisser les tensions et voilà, à ce que les gens soient plus calmes, soient moins réticents.
Dans l'ensemble, la violence est restée modérée ce jour-là, même si pour des personnes qui n'ont pas l'habitude, c'était parfois très impressionnant. Des explosions à répétition, des gaz lacrymogènes, des fumigènes, des bagarres entre les manifestants. Et il y a eu aussi un moment de tension au sein de notre groupe quand Laurent Bortolussi, le directeur de l'agence Line Press, est arrivé furieux.
J'ai ma journaliste qui est agressée par un policier.
Stéphanie,
ouais, ils ont essayé de lui mettre un coup de matraque. Steph, viens là. Si tu veux la prendre, elle va témoigner. Elle a l'image, elle est identifiée quand même, hein. Ils ont essayé de la frapper.
Non, j'étais en train de filmer les CRS en train de se placer comme d'habitude sur mes plans et ça n'a pas plu à un CRS qui a essayé de me mettre un coup de matraque, enfin de me menacer avec, donc j'ai les images, je les enverrai à la presse.
Elle ne représente pas de danger pour le policier parce qu'elle ne fait que filmer et le policier arrive avec la matraque levée pour lui mettre un coup et si elle n'évite pas, elle le prend quoi. C'est inadmissible, ça devient une norme en France, c'est inadmissible, je le répète. Il y a 5 ans, on ne voyait pas ça. Hein, moi, je peux te montrer là, c'est radiophonique. Ça se voit pas, mais tu vois, tu peux expliquer, j'ai un brassard de presse. Et ça doit permettre aux policiers de se dire, attends, il est là, il a un brassard de presse, a-t-il une carte, que fait-il là? Aujourd'hui, la seule réponse, c'est qu'on tape d'abord, pas tous évidemment, pas tous, je ne suis absolument pas là pour généraliser, mais l'incident qu'a eu Stéphanie, alors qu'elle était sur le côté, elle démontre quand même une dynamique qui se met en place depuis plusieurs années, qui me gêne énormément. C'est pas fait, on va pas défoncer la tête d'un journaliste, mais au gré d'une charge, d'une avancée, au passage cac, un petit coup de matraque dans la jambe, quoi. Et ça fait un bleu pendant des semaines, ça empêche de marcher pendant des semaines. Voilà, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Moi, je voyais il y a quelques années des commissaires, avant les manifs, qui disent aux policiers, on ne touche pas les journalistes. Ça, c'est quelque chose que j'entends plus. Voilà. Alors, je pense pas qu'il y ait de règles, sauf quand on interpelle volontairement des jeunes journalistes avant les manifestations, comme dans leur travail, parce qu'ils ont des masques ou des casques pour se protéger. Et là, effectivement, on les interpelle, on les met en attention plusieurs heures, ce qui est là aussi absolument anormal.
Nous quittons cette manifestation avec le sentiment que les journalistes preneurs d'images, des plus jeunes aux plus expérimentés, se méfient autant des policiers que des militants. La préparation et les stratégies des journalistes s'en ressentent. Ils portent des casques, des brassards de presse, arrivent souvent en groupe et restent ensemble au moment critique.
Une question reste ouverte. Beaucoup d'observateurs s'accordent à décrire les violences dont sont victimes les journalistes comme un phénomène nouveau. Nous avons entendu à l'instant Laurent Bortolussi s'emporter et dire que jamais par le passé il n'a connu ce type de situation. Mais est-ce que tous les vieux de la vieille, entre guillemets, pensent la même chose ?
Je suis allée voir mon ancien professeur, Rémi Barou, journaliste au Monde depuis 1999. Pendant ses cours, il avait fait allusion à un passé de militant engagé et par sa spécialité, l'environnement, je sais qu'il a été amené à couvrir des terrains violents comme la ZAD, la zone à défendre, de Notre-Dame-des-Landes. Je lui ai demandé si, à ses yeux, il était de plus en plus difficile de couvrir les manifestations en France.
Aussi loin que je m'en souvienne, la difficulté de suivre des conflits est liée au moment de tension des partenaires, que ce soit d'ailleurs du côté des manifestants ou que ce soit du côté des forces de l'ordre. En fonction de la situation politique, de la situation sociale, la capacité pour un journaliste de suivre une manifestation est évidemment liée à la situation sur le terrain directement. Au-delà, et donc ça c'est quelque chose qu'on peut vérifier depuis de nombreuses années, dans une autre vie, j'ai fait des manifestations dans les années 70 et 80. La violence était aussi très importante. Et je plaignais les journalistes qui avaient à suivre ces manifestations. Donc c'était de toute façon quelque chose de difficile qui est lié à la bonne volonté ou pas des organisateurs et des forces de l'ordre de laisser le travail se faire.
Je veux dire, est-ce que vous avez vu une évolution dans les violences qu'il peut y avoir à l'encontre des journalistes de la part des forces de l'ordre depuis que vous couvrez des manifestations publiques ?
Je pense que le matériel a changé, qu'il y a du flashball maintenant, que le coup peut venir de droite ou de gauche, mais que la violence, pour ce que moi je m'en souviens dans les années 80, elle était déjà très forte. Hein, au moment de Malik Houssiékine, les pelotons de voltigeurs qui arrivaient à deux sur une moto et qui tapaient indistinctement tout ce qui était devant eux, que ce soit un photographe ou un manifestant, c'était quand même archi-violent. En mai 68, j'étais gamin, très gamin, mais... il y avait des voitures de journalistes qui étaient retournées, brûlées, et il y avait les forces de l'ordre qui avançaient, qui tapaient, mais alors indistinctement sur tout ce qu'il y avait devant eux, et il y en avait 200 qui avançaient sur Boulevard Saint-Germain en rang, et qui faisaient aucune distinction. Donc cette violence, elle est, je pense, intrinsèque au conflit, dans la manière de gérer de la part de l'appareil d'État cette violence sociale ou politique, elle a toujours existé. Les manifestants eux-mêmes ont parfois été plus violents. Moi, je me rappelle de l'attaque du meeting. Alors, ça fait ancien combattant, mais l'attaque du meeting d'ordre nouveau en 73, qui a d'ailleurs conduit à l'interdiction et la dissolution de deux organisations, une extrême droite, une extrême gauche. Mais ça a été d'une violence incroyable. 1000 personnes casquées qui attaquent les forces de l'ordre. Ça n'a pas été refait depuis, avec des cars de police qui brûlaient. Donc, tout est lié fondamentalement à l'acceptation possible de cette violence. dans le rapport de force du moment. C'est-à-dire que maintenant, on part du principe qu'une manifestation de la jeunesse scolarisée, il y aura des violences, parce qu'il y aura des jeunes qui viendront d'ailleurs, qui profiteront de la manifestation pour se faire des vitrines. Voilà, c'est quelque chose d'accepté, qui est ingéré, y compris d'ailleurs par les médias qui vont attendre ce moment-là pour faire de l'image en disant il y a eu des abribus cassés, des vitrines, c'est grave. Enfin, c'est pas non plus l'hôtel de ville qui brûle. Donc il faut à chaque fois repenser cette question de la violence. Je dis pas qu'elle est pas moins importante aujourd'hui ou plus importante, elle est fluctuante. Ça n'est qu'un orage, voilà, les forces de l'ordre au-delà. La situation plus récente liée à la survenue des attentats, à la mise en place de l'état d'urgence, a évidemment complexifié la tâche des journalistes qui se voient offrir des contraintes quasiment officielles et réglementaires à la poursuite de leur travail. Bah écoutez, par exemple, pendant la préparation de la COP21, qui était un sujet que j'ai longuement couvert, l'interdiction des manifestations de fait par la préfecture et par le ministère rendait le suivi par les journalistes plus compliqué, puisque la manifestation était interdite, et le verrouillage des lieux par les forces de police rendait les choses évidemment très compliquées. Il fallait aussi comprendre qu'à ce moment-là, de la même manière d'ailleurs que sur les manifestations et les Khomri, que je n'ai pas suivi professionnellement, le degré de violence ou d'affrontement pouvait rendre les choses très difficiles pour les journalistes.
Et dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez constaté comme violence?
Honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait eu de violence particulière par rapport aux forces de l'ordre. Je pense que la situation était violente tout court, que la violence pouvait être aussi bien de la part des manifestants. Alors là, à Notre-Dame-des-Landes, la presse n'a pas bonne presse, c'est le cas de le dire. Il y a beaucoup de médias qui ont été agressés par les manifestants. C'est compliqué, on va dire, par une partie des zadistes, même pas d'ailleurs l'ensemble des zadistes. Les zadistes, ceux qui occupent le terrain à Notre-Dame-des-Landes, il y a vraiment une détestation qui peut être pour de bonnes ou de mauvaises raisons, parce que la presse est parfois intrusive. Parce que la presse parfois ne dit pas ce qu'il voudrait qu'elle dise, mais ça c'est le cas dans tous les conflits. Et il y a une tradition, on va dire, d'action directe contre les journalistes qui peut rendre difficile, voire dangereux, le travail de journalistes là-bas. Dans le cas des affrontements, non, voilà. Après, la police, elle charge. Moi, je ne fais pas de photos, je ne fais pas d'images, je suis donc témoin et je reste au plus près de l'affrontement pour voir ce qui se passe, pas pour faire une photo, mais pour pouvoir relater tout simplement, pouvoir prendre des témoignages au moment où l'événement se passe. Je suis pas forcément identifiable, puisque j'ai pas d'appareil photo, je mets pas de brassard, donc voilà, je peux prendre un coup comme si j'étais un manifestant.
Rémi Barou confirme le phénomène de violence actuelle, mais y voit quelque chose de cyclique.
J'ai aussi rencontré Michel Soudé, rédacteur en chef adjoint de l'hebdomadaire Politis.
Je suis avant tout journaliste politique, en presse écrite, donc je n'ai pas une grande habitude des manifestations, et j'y vais quand des politiques y sont présents. J'y fais aussi des photos depuis une bonne dizaine d'années et ça m'a amené comme ça à couvrir les dernières manifestations contre la loi travail, un peu pour voir quelle était l'ambiance, pour faire quelques images et sujets depuis que j'ai en charge la responsabilité éditoriale du site internet. Et lors de ces manifestations, j'ai pu effectivement constater des choses anormales par rapport à ce que j'avais pu connaître dans le passé. D'abord, des déploiements policiers extrêmement importants dès les premières manifestations, cherchant parfois à séparer les têtes de cortège des queues de cortège et à réagir très violemment dès le premier débordement. On a pu constater que la présence de photographes pouvait gêner et déplaire aux forces de l'ordre. On a l'autorisation de filmer les forces de l'ordre dans leur opération de maintien de l'ordre. Il y a une directive de la direction de la police nationale qui est très précise là-dessus, mais manifestement c'est quelque chose qui ne leur plaît pas toujours, et on est fréquemment rembarré en termes directs, très 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 fermes, soit des fois le tutoiement qui nous sommes de dégager, de les laisser faire leur travail, alors que je n'ai jamais eu l'impression, en tous les cas, qu'on pouvait les gêner en quoi que ce soit. Puis ensuite, il y a eu les filtrages aussi. Il y a eu les filtrages à l'entrée des manifestations, où on nous empêchait, hein, puisqu'il y avait des fouilles de sacs, on nous empêchait de venir avec un casque à la main, accroché à l'appareil photo, au sac photo, où on pouvait se faire confisquer des lunettes de protection, hein, et les masques qu'on prenait pour les lacrymos. Et je dois dire que là, c'était une véritable loterie. Je n'ai jamais connu de barrage filtrant dans d'autres manifs auparavant. Ensuite, avec les forces de l'ordre, quelles qu'elles soient, quand j'ai pu constater une certaine indistinction dans les manières de viser, de frapper, le brassard de presse ne sert plus à grand chose. J'ai moi-même, dans une manifestation à la fin, à la dispersion, place de la Nation, le 26 mai, été victime de coups de tonfa dans une charge, alors que je n'étais pas au contact direct au milieu des manifestants qui couraient devant la charge des forces de l'ordre. J'étais sur le côté, avec le brassard de presse bien visible, et l'appareil photo dans les mains, donc je ne vois pas comment je pouvais être visé autrement que comme journaliste présent sur le terrain. On m'a frappé sur le ventre, ce qui soit dit en passant ne m'a rien fait, puisque j'avais un téléobjectif qui était sur le ventre, un peu comme un bouclier involontaire. Et que c'est, par contre, ce téléobjectif était définitivement HS et a dû être remplacé par la suite. Même quand il y avait des fois des fins de cortège un peu agitées, j'ai jamais vu l'emploi de matériel comme les grenades de désencerclement. Et ça a été aussi utilisé contre des groupes de journalistes.
Mais ces violences-là, elles n'existaient pas avant. C'est-à-dire que la nécessité de porter un casque ou un masque à gaz, elle se faisait pas sentir avant, dans les années 80-90.
J'ai jamais porté de masque à gaz auparavant. D'abord parce que l'usage des lacrymogènes était très ciblé, très circonstancié. Ça se trouvait à certains endroits d'une manifestation qui pouvait dégénérer. C'était soit en tête, c'est déjà arrivé, mais c'était le plus souvent c'était en queue de manifestation. Et quand on était au milieu des manifestants syndicaux, politiques, il n'y avait absolument aucun risque, donc on n'avait pas besoin de ce matériel.
Les témoignages de ces deux journalistes aguerris sont complémentaires. Rémi Barou rappelle que la violence est intrinsèque aux mouvements sociaux, aux manifestations, et que son intensité fluctue. Il ajoute que par le passé, elle a pu être bien plus forte qu'aujourd'hui. Michel Soudet, quant à lui, précise qu'il existe de nouveaux outils, de nouvelles méthodes qui changent la donne et obligent les professionnels de l'information à se protéger d'une manière différente, tout en les exposant à des relations plus tendues avec les forces de l'ordre. Une analyse déjà confirmée par plusieurs sources. À ce point de notre exploration, nous avons la certitude qu'un problème grave et minimisé existe concernant les dangers auxquels s'exposent les personnes souhaitant couvrir, photographier, filmer les manifestations publiques en France. Les ONG, les journalistes ayant enquêté sur le sujet, les professionnels rencontrés sur le terrain, les journalistes ayant couvert les conflits sociaux des 3 ou 4 dernières décennies, tout le monde est formel. Concernant la nouveauté de ce phénomène, on peut penser que les violences au cours des manifestations à l'encontre des journalistes ont fluctué durant les 30 ou 40 dernières années, mais qu'une kyrielle d'éléments permettent de dire que cette situation est inédite. Nous sommes maintenant à la veille du premier tour de l'élection présidentielle. Je dois l'admettre, le sentiment que nous enquêtons sur un phénomène qui pourrait n'avoir été que passager. Conjonction de nouveaux profils journalistiques nés à la faveur de Periscope ou de Facebook Live, d'omniprésence de la vidéo avec les téléphones portables, d'état d'urgence, de surmenage des forces de l'ordre, d'assassinats de policiers, à Magnanville notamment, avec une crainte pour les agents d'être montrés, partagés, indexés sur les réseaux sociaux. Contexte auquel se superposent des mouvements sociaux eux-mêmes indisciplinés et parfois violents. Des signes laissent toutefois penser que la situation n'a pas vocation à s'améliorer. Persistance de la menace terroriste, multiplication des attentats contre les policiers, radicalisation des mouvements de contestation sociale et arrivée de nouvelles techniques de maintien de l'ordre dénoncées pour leur dangerosité, leur violence et leur inefficacité.
Bonjour à tous.
Le 23 avril arrive, journée de vote en France. À Hénin-Beaumont, dans le Nord, des centaines de journalistes viennent voir Marine Le Pen glisser son bulletin dans l'urne. Parmi eux, il y a Jacob Christ, photojournaliste connu pour son travail sur les militantes
féminines. Les élections présidentielles étant quand même un gros travail pour nous photoreporters. D'ailleurs, on était près de 600 à Hénin-Beaumont à se retrouver sur place pour couvrir le premier tour du scrutin. Le matin, j'arrive sur les lieux de la mairie. Là, on est quand même quelques centaines de journalistes. À partir d'une vingtaine de minutes, donc sur place, Steve Briouat arrive, donc député européen et maire d'Hénin-Beaumont. Tout sourire, il est entouré d'une bonne cohorte de journalistes. Il fait un petit tour devant l'école, rentre, ressort, et là donc je le suis comme mes collègues pour réaliser les images. On avance un petit peu, on va dans une rue adjacente, là il s'arrête, il a autour de lui un certain nombre de collègues qui le filment et l'interview. Et puis à ce moment-là, sur ma droite, je vois au loin une limousine apparaître, et je vois une activiste féminine descendre. À partir de ce moment-là, je détourne mon appareil photo et j'appuie, je fais des rafales, mes réglages sont bons, voilà, je fais des images. Et au bout de 15 secondes, je suis saisi de chaque côté par deux personnes. Je me retourne, je leur demande « Qui êtes-vous ? » Et là, je vois qu'elles sont déterminées, ne me disent de rien, ne se présentent pas. Je sais qu'il y en a une qui a un manteau rouge, l'autre peut-être noir. Voilà, je leur demande « Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? » Et là, je me dis, ça peut être des militants ou des gens qui, effectivement, ont prévu de me nuire physiquement, ou en tout cas, de vouloir m'entraîner, peut-être me passer à tabac, me voler mon matériel. Donc, je crie, j'appelle la police, tout de suite. Je leur demande qui êtes-vous, j'appelle la police. Puisque, bon, jusqu'à preuve du contraire, moi, la police, quand même, nous protège. Donc à cela, je résiste très fortement, mais sans jamais les insulter ni porter aucun coup. Et après, j'ai la face contre terre, donc là sur le bitume, les mains en sang, puisque elles ont frotté, elles ont été raclées contre le béton. Et là, à ce moment-là, c'est là où Steve Briouat, visiblement, bouge, reste pas, peut-être que ça le dérange un petit peu, justement, mais crie. Donc il se déplace, la cohorte de journalistes se déplace avec lui. Mais en me voyant à terre, et c'est les images qui sont le plus passées dans les médias, comme ça, il y en a quelques-uns qui viennent quand même me photographier, me filmer.
Jacob ne s'en cache pas. Il était présent à Hénin-Beaumont pour photographier, entre autres, l'action des phénomènes dont il avait été informé par avance, au même titre que des grands journaux ou que l'AFP. Après cette empoignade, il est remis à deux policiers en uniforme qui le menottent pour l'emmener en compagnie de six militantes féminines au commissariat de Lens. Une heure après son arrestation, à 11h30, il est emmené en cellule. Ses mains sont toujours en sang et il ne sait pas ce qu'on lui reproche.
Je reste en cellule jusque 17h. Bon, voilà. Alors après, je vois un peu les policiers passent. On me remplit une petite bouteille d'eau que j'avais là. Voilà. J'attends. Vers 17h et quelques, on vient me faire signer un papier pour me notifier de ma garde à vue. Pour me dire que, je suis accusé de complicité d'exhibition sexuelle. Là, je tombe des nues, puisque globalement, ça voudrait dire qu'à partir du moment où je photographie, dans le cadre de mon métier, une action ou un événement qui peut tomber sous le coup de la loi, je peux donc être accusé de complicité. J'imagine donc à ce moment-là qu'on peut finalement arrêter quasiment la plupart des photoreporters.
Jacob Christ est entendu une première fois à 22h30. Il peut alors exposer sa version des faits, expliquer qu'il était là pour couvrir le scrutin présidentiel et également l'action des Femen qu'il suit depuis longtemps comme photographe. Le commissaire lui précise quant à lui qu'en plus de complicité d'exhibition, les deux policiers qui l'ont arrêté ont parlé de véhémence de Jacob à l'encontre de Steve Briouat. C'est donc à ce moment que Jacob acquiert la certitude que les deux hommes qui l'ont arrêté étaient des policiers.
Donc là, ils me disent, non, mais les agents disent qu'ils se sont présentés. Mais, bon, après, là, j'avais pas l'impression qu'il y croyait vraiment à ce qu'il y a tout ce qu'il disait là finalement. J'ai l'impression que depuis tout à l'heure on tâtonnait un petit peu, mais que finalement il y croyait pas beaucoup. Donc bon, je fais ma déposition. Je commence à prendre conscience que c'est quand même, ça confirme ce que je pensais, c'est que c'est quand même assez grave, c'est que sciemment on veut me porter préjudice, sciemment on veut me donner un avertissement, c'est comme ça que je le prends. Voir que ça aille plus loin, parce que là j'ai confiance que je vais passer la nuit, que je vais faire mes premières 24 heures de garde à vue, et qu'effectivement il cherche à tout prix la petite faille ou la petite bête dans le système pour m'inculper de quelque chose.
Le photojournaliste Jacob Christ passe la nuit du 23 au 24 avril au commissariat. Le lendemain matin, il a rendez-vous en visioconférence avec le procureur de la République.
Là, le procureur, donc on est lundi matin, dit qu'il a pris connaissance du dossier. Celui-ci me dit sensiblement les mêmes choses que la veille, sauf que là, contrairement à la veille où je n'étais accusé que de complicité d'exhibition sexuelle, là je suis accusé de complicité d'exhibition sexuelle et de rébellion.
Le photojournaliste est alors reconduit en cellule où il attendra toute la journée. Vers 20h30, il apprend qu'il va être libéré sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui.
Là on me rend tout mon matériel qui n'a pas été endommagé, des petites éraflures sur le boîtier. Les agents que j'ai en face de moi me disent qu'ils comprennent pas trop non plus, me remercient, puis souhaitent bonne chance quelque part, et ont l'air un peu désolés. C'est tout. Je demande si je peux avoir des récépissés de tout ce que j'ai signé, de tout ce que j'ai déposé, de tout ce qu'on m'a, des choses pour lesquelles on m'a entre guillemets arrêté. Et ils me disent que non, qu'il y avait peut-être des soupçons par rapport à certaines choses, qu'ils ont fait des vérifications et ou qu'ils n'ont pas les éléments pour aujourd'hui m'inculper, ou alors que c'était potentiellement peut-être une erreur, mais qu'en tout cas ils n'ont rien à me remettre. Que c'est la marche normale d'une procédure. Donc on m'a privé de liberté pendant 36 heures, on m'a empêché de faire mon travail par des gens qui ne se sont pas donc présentés, par des gens qui l'ont fait de manière véhémente pour le coup, et même violente, et je ne peux absolument rien faire contre ça.
Je demande à Jacob s'il compte porter plainte.
J'ai eu des échanges avec les personnes de RSF, clairement c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser passer puisque ça crée là un précédent. Et qu'en plus, justement, sur cette affaire, et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas, du début à la fin, commis de faute, on va dire. Le fait même qu'on m'arrête ne m'a pas mis dans un état qui m'a poussé à commettre une faute. Mais j'imagine d'autres cas, où si des cas comme ça se produisent régulièrement, ce que ça peut donner. Qu'au final, la victime devient finalement le coupable et des suites que tout ça peut donner. Si j'en parle aussi aujourd'hui, c'est parce que si j'avais pas la possibilité de m'exprimer, s'il n'y avait pas eu cet écho si important, si on pouvait me reprocher quoi que ce soit aussi, puisque je pourrais être victime, mais je pourrais être une victime à qui on peut reprocher, par exemple, de pas avoir de papier, peut-être, une victime à qui on pourrait reprocher d'avoir été insultant à un moment donné. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il adviendrait? Donc aujourd'hui, à minima, ce qui est pour moi important, c'est au moins d'en parler, mais d'en parler avec justesse. C'est notamment pour ça que j'ai voulu, dès le lendemain, avant de répondre à qui que ce soit, écrire un texte assez juste, et surtout qu'il ne pouvait pas stigmatiser les policiers en général, pas stigmatiser d'hommes en fait finalement, et surtout pas non plus mentir, pas projeter. Il y a des choses que je ne sais pas. Après, j'ai demandé aux avocats qui me défendaient, j'ai demandé à RSF qui m'a contacté, ce qu'on pouvait faire. Et ça, c'est en dehors de ma personne, c'est par rapport justement à un précédent, de savoir si effectivement, il y a moyen d'agir. Premièrement, pour que ces choses-là ne se reproduisent pas forcément, pour qu'on soit également informé sur les mécanismes. Et ça, aujourd'hui, on me dit effectivement que c'est compliqué, de par la nature de l'arrestation et du fait qu'on m'ait libéré sans aucune charge.
Le cas de Jacob Christ n'est pas isolé. En octobre 2016, 4 journalistes anglais sont arrêtés à Calais et placés en garde à vue pour port de masque à gaz prohibé. Ils sont relâchés au bout de 24 heures et reconduits à la frontière. Le 15 février 2017, Aïdé Sabéran de Libération est arrêté brièvement à Calais, emmené à la police aux frontières, puis relâché. En tout, 6 professionnels de l'information ont été interpellés et privés de liberté dans le Pas-de-Calais entre 2016 et 2017. Nous avons tenté de contacter la préfecture de ce département sans succès.
Il est 20h et vous le voyez, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont qualifiés pour le second tour, mais ils sont...
Revenons au 23 avril. Nous sommes cette fois à Paris. Noman Cadoret est journaliste et photographe. Il s'est attiré une audience assez importante sur les réseaux sociaux en réalisant des vidéos en direct de manifestations publiques. Nous sommes dans la nuit, juste après l'annonce des résultats du premier tour de la présidentielle. Des manifestations spontanées ont éclaté dans l'est de Paris, d'abord à Bastille, puis à République, où Noman commence un direct Facebook.
Voilà, la place de la République est complètement gazée. On a reçu plein de capsules à l'instant.
Comme beaucoup de figures de sa génération, Noman Cadoret est engagé, notamment contre les violences policières. Dans ses vidéos, son ton, loin d'être policé, tranche avec le détachement et la distance journalistique traditionnelle.
Une corde de tête, vous venez de voir, c'est complètement illégal, c'est complètement interdit. Je viens de tirer le LBD, lanceur de balles de défense, à hauteur de tête.
Ce soir-là, quand Noman voit et filme en même temps un groupe d'hommes en civil utilisant des LBD, des lanceurs de balles de défense, d'une manière qu'il estime dangereuse, il s'approche d'eux et les arme.
Vous êtes policier, monsieur, je vois pas de brassard. Il me faut une brassard normalement.
Je peux voir la carte de presse.
Il n'y a pas de carte de presse pour les photographes indépendants. Est-ce que vous êtes policier, monsieur? J'aimerais voir votre carte de police ou votre brassard.
À l'image, il est très clair que ces hommes ne portent pas d'insigne permettant de savoir s'ils sont policiers. On voit également qu'ils tirent avec leur LBD vers une foule au loin en tenant leurs armes assez droits, ce qui semble dangereux puisque ces outils sont imprécis et ne doivent surtout pas viser la tête. Le ton de Noman change au cours de la conversation, vous l'aurez entendu, c'est parce qu'un des hommes en civil frappe violemment le téléphone du vidéaste. Après cette montée de tension, Noman Cadoret s'éloigne et continue à filmer et commenter ce qu'il voit. Quelques instants plus tard, les hommes en civil et sans brassard reviennent vers lui.
Normalement, il faut savoir que les policiers...
Faut arrêter de chier avec votre téléphone.
Pourquoi, monsieur? Je suis journaliste. J'ai le droit de faire de l'image.
C'est un contrôle d'identité.
Oui, il n'y a pas de problème. Le contrôle, il n'y a pas de souci.
La scène est, comme vous l'entendez, très violente. Noman accepte de se soumettre à ce contrôle d'hommes qui se présentent donc comme des policiers. On ne comprend pas, en revanche, pourquoi un des agents agrippe le téléphone du jeune journaliste qu'il ne cesse d'ailleurs de tutoyer. Le direct est finalement interrompu quand Noman accepte de lâcher son téléphone. Cette première vidéo a été vue plus de 50 000 fois. Celle qui la suit de quelques minutes comptabilise 400 000 vues sur Facebook. On y voit un jeune homme, Noman, qui a l'air sonné et apeuré.
Voilà, c'est rare que je fasse des vidéos dans lesquelles je me mets en scène, des lives en tout cas dans lesquelles je me mets en scène. Mais ce soir, ce qui vient de se passer, c'est trop grave et c'est inadmissible.
Dans cette seconde vidéo, Noman explique dans le détail et à chaud ce qui vient de lui arriver. Constance Léon de l'atelier des médias est allée recueillir son témoignage quelques jours plus tard à froid. Noman Cadoret nous raconte ce qu'il a vécu dans les instants qui ont suivi son interpellation à laquelle on a assisté dans la vidéo Place de la République.
Ils m'emmènent, on arrive dans une ligne de CRS, les CRS s'écartent, donc je comprends à ce moment-là et ça confirme qu'ils sont policiers, et parce que sinon les CRS ne se seraient pas écartés pour des simples civils. Et là, il me sort derrière une CRS, il me couche au sol sur une petite marche d'un commerce. Et alors qu'ils me tiennent, ils commencent à me menacer, à m'insulter. Les journalistes comme vous, vous nous faites chier. On veut pas avoir notre tête sur les réseaux sociaux. On veut pas se retrouver sur une vidéo YouTube. Et ils me jettent mon téléphone sur moi et ils me demandent de le déverrouiller et d'effacer les vidéos. Donc je leur montre que j'efface les photos. J'avais fait quelques photos pour les réseaux sociaux de cette manifestation. Donc je leur montre que j'efface. Et ils me disent à plusieurs reprises, te fous pas de ma gueule, on sait que t'as pas effacé la vidéo, montre-nous la vidéo, où est-ce qu'elle est? Et je leur dis que je peux plus leur montrer parce qu'elle est effacée. À ce moment-là, ils ignorent qu'en fait c'était un live Facebook et que du coup la vidéo n'est pas enregistrée dans ma pellicule mais qu'elle est enregistrée sur mon profil Facebook. Je leur explique que s'ils veulent, je veux bien effacer tout le contenu image de mon téléphone parce qu'à ce moment-là, ils mettent une telle pression que je sais pas c'est quoi la suite en fait. Et c'est que quand on a deux policiers comme ça en civil, couchés sur soi, qui ont chacun sorti une matraque à la main, et qui sont en train de me menacer dans le cadre de ma profession, à ce moment-là, je ne sais pas ce qui va se passer après. Je ne sais pas si après, ces pressions-là, ça va se finir dans le fourgon qui était juste à côté. Est-ce qu'ils vont, je ne sais pas, me gazer par plaisir, me taper par plaisir. Et donc, je leur dis que je veux bien effacer mes images. Et je ne suis pas en mesure, à ce moment-là, de leur expliquer que ce qu'ils font, c'est illégal. Et en fait, alors que je ne parle pas, ils me disent à plusieurs reprises, ferme ta gueule, ferme bien ta gueule, machin. Bref. Là-dessus, donc, ils me rendent mon téléphone en ayant compris qu'il n'y avait plus les images en question. Et ils me demandent d'allumer mon appareil photo. Ils veulent regarder mes photos. Donc j'ai sur cette carte mémoire le travail de toute la soirée électorale, plus la veille, j'avais fait un reportage toute la journée sur lequel il y avait tout un projet qui n'avait rien à voir avec les élections, mais bref. Ils commencent à regarder les photos et il se trouve que la première photo qu'ils voient, c'est une photo en fait de cette équipe-là en train de tirer. Et donc là, voyant ça, ils se retournent vers moi, ils me demandent si je me fous de sa gueule, enfin ils me disent tu te fous de ma gueule, c'est quoi cette photo, tout ça, et je leur explique que je veux bien l'effacer. Ils m'attrapent à l'épaule, ils me frappent très violemment au visage avec mon propre boîtier. Donc j'ai eu ensuite une blessure sur la lèvre, dans la bouche et au niveau de la cloison nasale. J'ai eu 3 jours d'ITT à la suite de cette blessure. Et une fois qu'il m'a mis ce coup et donc que je suis au sol avec un début de goût de sang dans la bouche, il ouvre le clapet de carte mémoire, il prend ma carte mémoire, il me jette mon appareil photo sur moi, il me rend mon sac à dos et il me dit « vas-y maintenant casse-toi et si on te revoit ». Il me explique que tous ses collègues m'ont identifié, donc que si pour le coup il me revoit sur le dispositif, là je vais vraiment avoir des soucis.
Noman Kadoré a porté plainte pour les faits qu'il nous a décrits. Son dossier est en cours d'instruction. Son histoire fait en tout cas écho à de nombreux autres témoignages de photographes contraints d'effacer leurs images ou privés de leur carte mémoire par les forces de l'ordre. L'arrestation et la garde à vue de Jacob Christ ainsi que l'agression de Noman Kadoré nous confortent dans l'idée que les dérapages et les violences observées à Rennes, à Calais, durant Nuit debout ou à l'occasion des manifestations contre la loi travail n'ont pas dit leur dernier mot. Arrive la manifestation du 1er mai 2017 à Paris. La place de la République et celle de la nation. Tout le monde a vu l'image AFP de ce CRS transformé en torche humaine par un cocktail Molotov. Si, comme nous, vous suiviez les événements sur Twitter ou Facebook, vous avez probablement vu passer également plusieurs images ou messages de journalistes blessés ce jour-là. Nous en avons rencontré plusieurs. Stéphanie Roy, tout d'abord, elle travaille pour Line Press.
Et nous sommes plus nombreux malgré le foutrage plus serré autour de la place de la République.
Il y a eu comme des heures qui ont débuté assez vite sur le boulevard Beaumarchais. Les manifestants et les policiers étaient au niveau de la rue, se faisaient face, il y avait des projectiles qui étaient lancés. Nous, les journalistes, tout de suite, on s'est mis en fait sur le côté droit, sur le trottoir en fait. On s'est regroupés vraiment entre journalistes pour pouvoir avoir les meilleurs plans également, pour se sentir peut-être mieux en sécurité ensemble. Donc je faisais un plan, quand ça s'est passé, je faisais un plan en fait sur la police qui recevait toutes sortes de projectiles. Et je sens le Black Bloc qui recule vers Bastille, qui commence à avancer. Donc je voulais pas louper non plus un plan. Donc je fais mon plan et là je coupe la caméra pour reprendre un autre plan en fait sur les Black Blocs pour avoir les deux versions en fait. Et au moment où je me retourne, je sens comme un gros coup de poing. Au début, je pense que c'est un policier peut-être qui me pousse parce que je le gêne, parce qu'il y avait des mouvements en fait entre les policiers, les manifestants. Je le sens comme un gros coup de poing. La douleur vraiment m'a pas assommé, mais m'a projeté presque à terre, quoi. J'étais vraiment pliée en deux. Et là, j'ai compris en fait que c'était vraiment un coup de flashball ou de grenade de désencerclement que j'avais prise en tout cas. Donc j'ai essayé au plus vite en tout cas d'appeler mon collègue Clément, qui travaille aussi pour l'agence, pour lui signifier que j'étais blessée en fait.
Henry Langston est reporter pour Vice UK, lui aussi a été blessé boulevard Beaumarchais.
J'ai ressenti une douleur aiguë dans ma jambe. J'ai eu l'impression que j'avais été touché par quelque chose. Je crois que c'était un tir de flashball, donc de balle en caoutchouc. Je me suis dit, bon, ok, ce sera juste un bleu, ce n'est pas très grave. 5 minutes plus tard, je sentais quelque chose d'humide. J'ai soulevé mon pantalon et j'ai vu que ma jambe saignait beaucoup. Mes collègues et moi, nous nous sommes écartés du cortège pour prodiguer les premiers soins. J'ai entouré ma jambe de bandage. Il y avait une coupure assez profonde et large.
Nous avons réussi à arrêter les saignements. Nous avons continué à filmer pendant 2h30 à peu près. Plus tard, ce soir-là, vers 23h, je suis allé dans un hôpital à Paris. Ils m'ont fait 3 points de suture pour recoudre le trou sur ma jambe.
Le photographe Stuf Pic était également présent ce jour-là, boulevard Beaumarchais.
J'étais dans un groupe avec pas mal de journalistes de presse. On s'est retrouvés acculés contre un mur, le mur de la Société Générale. On gueulait presque puisqu'on était en groupe et qu'il y avait juste derrière nous un autre journaliste qui était tombé à l'instant d'avant. On était un gros groupe, je devais être le seul à ne pas avoir de casque, mais autour de moi il y avait beaucoup de gens casqués avec marqué presse ou photo. Et là il y a eu une charge de CRS, on a essayé de reculer, on n'a pas été assez rapide. Je me suis pris un coup de bouclier, jusque là je me suis dit que c'était normal, enfin c'était ils essayaient vraiment de nous pousser. Et là j'ai vu le même CRS qui a essayé de mettre un coup de matraque à mon appareil photo pour le casser en fait tout simplement. Donc j'ai tourné la main et là c'est ma phalange qui a tout pris. J'ai instantanément su qu'elle était cassée, mon doigt a pris une forme assez étrange. Les médecins ils m'ont dit que j'ai une quadruple fracture de la phalange du majeur, plus mon os est en miettes en fait. C'était une plaie un petit peu ouverte au début, c'est pour ça qu'ils ont été obligés de vérifier. Il n'y a pas d'autres dégâts, mais je vais être immobilisé au moins un mois, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir prendre de photos. Donc je compte porter plainte, ne serait-ce que symboliquement, et j'espère que tous les autres journalistes et même les manifestants qui ont subi des violences porteront plainte pour montrer que la manifestation est allée beaucoup trop loin cette fois-ci.
Cette manifestation nous a permis de comprendre un élément qui joue un rôle dans le phénomène de violence contre les journalistes. En fin de journée, le lendemain du 1er mai, les radios et télévisions reprenaient tout le bilan de la préfecture de police. 6 policiers et une personne blessée en tombant d'un escalier. Ces chiffres officiels ne mentionnent aucun blessé parmi les manifestants. Nous en avons rencontré 3 et nous savons que l'organisation Street Medic Paris a soigné 124 personnes ce jour-là. Si autant de journalistes ont pu être blessés sur les 4 dernières années sans que personne ne tire l'alarme, c'est en partie parce que tous les blessés légers sont ignorés dans ces mouvements et qu'on colporte avec trop de complaisance des chiffres officiels inexacts et partiels. Impossible de savoir si les 5 violences constatées contre des journalistes ce 1er mai 2017 étaient intentionnelles. Même chose à Nantes, le 7 mai dernier, où 3 photographes ont été blessés par une grenade de désencerclement. Idem le 8 mai 2017 à Paris, où 5 journalistes ont reçu des coups durant la manifestation contre, je cite, « le précariat généralisé au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron ». Impossible de connaître les intentions de forces de l'ordre au cœur de mouvements qui leur sont violemment hostiles. Impossible et inutile finalement, tant les chiffres parlent d'eux-mêmes et indiquent des dysfonctionnements structurels. Nous avons sollicité des entretiens avec la direction de la police nationale, le ministère de l'Intérieur, la préfecture de police de Paris, les préfectures d'Ille-et-Vilaine et du Pas-de-Calais, ainsi que l'IGPN, la police des polices. Aucune de ces entités n'a souhaité nous répondre. J'ai également pris contact avec des représentants de la police, plus précisément des compagnies républicaines de sécurité, les CRS. David Michaud est secrétaire national CRS pour l'UNSA Police. Il a accepté de me rencontrer. Je lui ai exposé les résultats de notre enquête. Voici sa réaction.
Alors nous, le ressenti qu'on a, c'est absolument pas de différencier un journaliste ou un manifestant. Le problème, il est là, justement, de ne pas pouvoir identifier la personne qu'on a en face de nous. Et on se retrouve avec des gens, surtout maintenant ça devient compliqué, avec tous les manifestants qui à l'origine viennent plus pour manifester, mais pour dégrader. Donc on appelle même plus ça des manifestants, on appelle ça des casseurs et des gens qui sont là pour semer la zizanie. Et malheureusement, on se retrouve confronté à une mixité de personnes qu'on n'arrive pas à identifier. N'importe qui prend son téléphone et vous filme. Et c'est, ça devient difficile. Parce qu'on a des gens entre les manifestants et nous, et on ne sait plus du tout à qui on a affaire.
Pour le CRS David Michaud, il est donc difficile de différencier les journalistes des manifestants dans le feu de l'action, ce qui mène à des blessures des journalistes. Je lui demande ensuite s'il confirme le fait que du matériel de protection type masque à gaz est retiré à des journalistes sans carte de presse.
Oui, on peut le comprendre. Pourquoi ? Parce que est-ce qu'on a réellement affaire à un journaliste ? Il y a toujours le principe de la précaution. On ne sait pas qui on a affaire, journaliste, manifestant. Donc moi, ça me choque pas réellement, ça me paraît même logique.
Qu'en est-il maintenant de l'usage d'armes intermédiaires? Y a-t-il des abus liés aux lanceurs de balles de défense ou aux grenades de désencerclement?
Vous savez, nous, on ne fait pas une manifestation pour les journalistes. On ne gère pas une manifestation pour les journalistes. Les journalistes se retrouvent entre les forces de l'ordre et la manifestation. À un moment ou à un autre, vous avez des personnes qui vous agressent. On ne peut pas dire, on ne va pas jeter une grenade, parce qu'un journaliste, regardez ce qui s'est passé le 1er mai, mon collègue qui a été mis en feu, pourquoi? Parce qu'on l'a laissé venir au contact, la personne. Donc, la grenade de désencerclement va permettre de repousser plusieurs personnes. On ne vise absolument pas le journaliste, on vise le manifestant ou les manifestants qui viennent au contact. S'il y a un accident, la plupart du temps, c'est un événement, c'est une balle en caoutchouc qui a rebondi sur quelque chose. Ça peut arriver. On a eu le cas, hein, on a des rebonds malheureux. Après, vous utilisez. Nous, je vais revenir sur les balles en caoutchouc. Déjà, nous, on n'avait pas du tout accès. Là, maintenant, on y a droit.
Mais, vous, les CRS?
Oui, on n'avait pas du tout accès au LBD, au flashball et autres. Donc, depuis les événements du 1er mai, maintenant, on a remis, mais c'est vraiment encadré. Après, on a...
Dire quoi, c'est encadré?
C'est-à-dire que le lanceur de balles de défense va être à la gestion de l'événement, mais sous la responsabilité directe de l'officier commandant l'unité. Donc, il sera à côté de lui, c'est lui qui va donner l'ordre exclusif.
Qu'en est-il enfin de l'omniprésence d'images? Plusieurs observateurs m'ont fait part de l'exaspération des policiers filmés de toutes parts durant les opérations de maintien de l'ordre.
Mais c'est ça le problème. C'est, franchement, on se dit, mais qu'est-ce qui va sortir?
C'est ça.
Et on a une réelle crainte sur ça. On a la peur de retrouver notre photo sur les réseaux sociaux, partout.
Dans l'ensemble, David Michaud réfute les accusations de ciblage des journalistes par les forces de l'ordre lors de manifestations en France. Il confirme en revanche quelques éléments de notre enquête, le rôle de la carte de presse, les dangers liés à certaines armes imprécises et le ras-le-bol de l'omniprésence d'images. Avant de conclure cette enquête, nous souhaitions avoir une idée plus précise de l'ampleur des violences faites à l'encontre des journalistes. Je vous l'ai dit, j'ai demandé à Mathias Virilli de recenser toutes les situations connues où des professionnels ont subi des violences alors qu'elles, ils couvraient des manifestations publiques en France. Salut Mathias.
Bonjour Ziad. Pour recenser les violences, je suis parti de tout ce que j'ai pu trouver en ligne. Articles de presse, rapports, notamment celui du magazine Reporter ou celui d'Amnesty, et aussi témoignages sur les réseaux sociaux. J'ai tout compilé dans un tableau, et à partir de là, j'ai vérifié ce qui s'était passé dans chacun des cas, en recoupant les sources, en interrogeant les victimes, en croisant les sources, et en m'appuyant sur les photos et les vidéos quand elles existaient.
Quels sont maintenant les résultats?
J'ai pu recenser 124 cas de violences policières à l'encontre de journalistes depuis 2014. Ces violences concernent 87 professionnels différents, parce que certains ont été touchés plusieurs fois.
C'est déjà considérable et certainement bien en deçà de la réalité, puisque beaucoup de violences ne sont pas dénoncées.
Avec 69 violences, l'année 2016 a été la plus dure pour la couverture des manifestations. Il y a eu 8 cas de violences en 2014, 19 en 2015 et 24 depuis 2017.
Et donc 69 en 2016, l'année des manifestations contre la loi travail. Est-ce qu'on a une idée de la géographie de ces violences?
Les violences ont principalement lieu à Paris, mais aussi à Rennes, à Nantes, à Toulouse ou encore à Calais autour de la jungle.
Est-ce qu'on a une idée de la typologie de ces violences? Qu'est-ce que tu as considéré être une violence ou ne pas être une violence?
J'ai pris en compte tous les cas où les journalistes ont été entravés dans l'exercice de leur profession. Ça peut être des insultes, des menaces ou de l'intimidation. Il y a par exemple des contrôles d'identité alors que les journalistes étaient déjà identifiés ou des cartes de presse prises en photo. Plus grave encore, il y a eu 9 gardes à vue de reporters arrêtés dans l'exercice de leurs fonctions, dont 6 à Calais. Il y a aussi de la violence physique. Les coups de matraque sont les plus courants, j'en ai compté 31 cas. Il y a 22 situations où des journalistes ont été touchés par des grenades de désencerclement, 11 par des grenades lacrymogènes, 9 tirs de balles de défense, 5 coups de bouclier et 4 coups de pied. Dans un certain nombre de cas, les journalistes ont témoigné de policiers qui n'utilisent pas leur arsenal de manière appropriée. Il arrive que les grenades lacrymogènes soient lancées en tir tendu, que les balles de défense soient tirées sans sommation ou que les distances pour le gaz lacrymogène ne soient pas respectées.
Qu'en est-il de l'intention? Est-ce qu'on peut déterminer si les violences sont intentionnelles ou pas?
Sur tous les témoignages que j'ai pu recueillir, plus de 2/3 des journalistes s'estimaient pris pour cible. C'est difficile à vérifier, mais il y a quoi qu'il en soit de la méfiance entre reporters et forces de l'ordre.
Je précise aussi que 22 des 87 journalistes victimes de violences ont la carte de presse.
Ce qui veut dire que le problème ne touche pas uniquement de jeunes ou de moins jeunes photographes indépendants.
Tous les types de journalistes ne sont pas exposés de la même façon. Parmi ceux que j'ai contactés, au moins 40 sont photographes ou caméramens.
Est-ce qu'il y a des plaintes qui ont été déposées ?
J'ai compté 23 plaintes déposées, soit au commissariat, soit directement à l'IGPN, la police des polices.
Et est-ce que ces plaintes aboutissent ?
Je sais que 6 ont déjà été classées sans suite. Pour les autres, soit elles sont encore en cours, soit les journalistes étaient sans nouvelles quand je les ai contactés. À noter aussi que le défenseur des droits a été saisi à 4 reprises, la plus récente étant Reporters sans frontières le 7 juillet dernier. Je veux juste préciser, Ziad, si tu me le permets, que les violences sur les manifestations ne sont pas le seul fait des forces de l'ordre. Dans une deuxième colonne de mon tableau, j'ai répertorié toutes les violences de la part de vigiles, de militants ou de passants que j'ai pu trouver. Si le bilan est moins impressionnant avec 51 cas depuis 2014, ce ne sont pas des situations rares et elles méritent d'être notées.
Merci Mathias, on peut retrouver ton travail, ton recensement sur le site de l'Atelier des médias. C'est un glissement, une banalisation, disent certains, celle de la violence à l'égard des journalistes en France. Elle est le fait de citoyens, militants, sympathisants, badauds, vigiles, de décideurs, politiques, chefs d'entreprise, d'institutions et, c'est le plus inquiétant, des forces de l'ordre. Au terme de cette enquête, nous pouvons affirmer que les manifestations contre la loi travail en 2016 ont révélé une dégradation des relations entre les journalistes et les forces de l'ordre. Une dégradation qui remonte au moins à 2014 et perdure en 2017. Les violences policières s'inscrivent dans un contexte de violence et de défiance généralisée à l'encontre des journalistes. Pour des raisons liées à leur support, l'image, les photographes, les caméramans sont les plus susceptibles de recevoir des coups délibérément ou accidentellement lors de manifestations. Les journalistes qui couvrent les manifestations potentiellement violentes sont d'ailleurs équipés de matériel de protection, casques pour les projectiles et masques pour les gaz lacrymogènes et les fumées. Il n'existe pas de signalisation normée ou universelle pour identifier ces professionnels lors de manifestations. Le statut des journalistes joue un rôle et plus particulièrement la possession ou non de la carte de presse. Un problème qui nécessite une prise de conscience et un traitement urgent. Il n'est malheureusement pas rare de voir un journaliste avec carte de presse balayer d'une main dédaigneuse ce problème de violence par un « ils n'ont même pas la carte de presse ». Les techniques et les outils de maintien de l'ordre ont évolué sur les derniers mois, les dernières années, et cela a des conséquences sur la sécurité et les blessures infligées à des journalistes. Ce phénomène de violence passe quasiment inaperçu, notamment parce que les manifestants blessés légitimement ou non par les opérations de maintien de l'ordre ne sont pas comptabilisés correctement en France, ce qui empêche par ailleurs d'évaluer l'efficacité et la dangerosité des techniques de maintien de l'ordre. Les évolutions technologiques et médiatiques impliquent une omniprésence de l'image qui ajoute du stress aux policiers et influe probablement sur leur gestion des manifestations. Les violences contre les journalistes lors de manifestations publiques en France, c'était une enquête de l'Atelier des médias. Ziad Malouf, Constance Léon, Simon Decreuse, Mathias Virelli, Marie-Stéphanie Servos, avec l'appui de Thomas Status et Sarah Lefebvre de Street Press. La version longue de cette émission est à retrouver sur le site de RFI et sur l'Atelier des médias. Atelier où vous pourrez lire une version écrite de ce travail et accéder au recensement que nous avons réalisé. Merci à toutes celles et ceux qui ont accepté de répondre à nos questions. Merci à vous pour votre soutien et votre fidélité. Salut à toutes et à tous.
Best thing so conservative.